Alors pour conclure ces deux journées à la fois variées et très riches, lors desquelles nous avons souhaité vous proposer des approches diversifiées de la géopoétique, touchant l'essence, divers sens, touchant l'intellect, tout ça formant un ensemble que l'on peut aborder selon les moments, selon les envies, de différentes façons. Donc pour conclure ces deux journées, je vais vous lire, puisque Kenneth ne peut pas être avec nous, sa conférence terminale pour marquer ces deux journées, intitulée, vous le savez, Une habitation atlantique. Donc, texte de Kenneth White. Avant de parler de ce que j'entends par habitation, et plus particulièrement habitation d'un lieu, il faut parler d'espace. Car sans une appréhension, une compréhension de l'espace, le lieu peut se réduire au local, voire au localisme. Par espace, précisons que je ne me réfère pas forcément à l'espace interstellaire que je peux admirer en tant que tel, mais sans aucune envie de m'y rendre, étant très bien adapté à l'espace terrestre. Je parle dans un premier temps de cette ruée d'eau sauvage qui surgit de l'océan glacial arctique, Jan Mayen, Islande, descend jusqu'à l'espace de l'Atlantique Nord vers les Açores et le Cap-Vert, et de là jusque dans le bassin sud-atlantique indien. C'est que je suis né au bord de cet océan, et il me semble entendre encore sa rumeur dans mon cerveau. Je vais prendre pour point de départ la poétique de l'espace de Gaston Bachelard, un scientifique qui voyait dans la poésie, une certaine poésie, autre chose qu'un délassement. Bachelard écrivait: La maison habitée transcende la géométrie. Si l'espace géométrique a son importance, et si l'intimité psychologique dont parle Bachelard dans son livre peut avoir son intérêt, avec le verbe transcender, c'est moi qui souligne, il va plus loin, il plonge dans une autre dimension. Dimension dans laquelle il se retrouve en compagnie de Friedrich Hölderlin, celui qui, installé cliniquement fou dans une tour surplombant la rivière Neckar, qu'il contemplait sans relâche, parle d'un de ses derniers poèmes comme un legs à l'humanité de l'habitation poétique de la Terre. Comment je vais progresser d'une habitation de la Terre en général à l'habitation atlantique deviendra clair au cours de cette conférence. Ce qui semblerait de prime abord une restriction s'avère en fait un agrandissement. Songez qu'on appelle le cahier de notes de Léonard de Vinci Codex Atlanticus. Atlantique signifie à la fois grand et précis. C'est assez rare. Je me rappelle ma première visite d'un lieu d'habitation significatif, la maison de Thomas Carlyle, un rude édifice écossais situé sur les bords d'un torrent impétueux. Cela devait avoir eu lieu autour de ma première année à l'université de Glasgow, étudiant en lettres classiques, lettres modernes et philosophie. Voici comment Carlyle présente sa situation à son ami écossais John Stuart Mill, utilitariste de l'école de l'anglais Bentham, mais converti à la bande des transcendantalistes parce qu'ils ouvraient des perspectives plus larges, existentielles et intellectuelles. Aucun philosophe au monde ne mène une existence comme la mienne, dit Carlyle. J'ai pour me promener une longue terrasse. De là, j'ai vu sur le pays granitique de Galloway et jusque dans l'Ayrshire. C'est une vision austère où la pensée n'est la plupart du temps interrompue par aucun objet vivant et l'on peut avancer sans obstacle jusque dans l'infini. Sur le plan anecdotique, lors de ma visite à la maison de Carlyle, à un moment donné où le gardien avait le dos tourné, j'ai mis sur ma tête un grand chapeau rond et noir de l'écrivain. Il m'allait parfaitement. Je ne tire de cette scène aucune conclusion, y voyant seulement le geste de reconnaissance d'un jeune étudiant envers quelqu'un qui, dans ses premiers mouvements, avait voulu attirer l'attention du public sur des individus solitaires situés en dehors du système du patronage, le besoin d'un patron, et chez qui existaient des ressources intellectuelles rares. C'est ainsi que le courant le plus intéressant de la pensée et de la littérature américaine anime la correspondance de Carlyle avec Ralph Waldo Emerson. Ce que le transcendantalisme américain oubliait, c'était le descendantalisme que recommandait aussi Carlyle pour que tout ne se perde pas dans l'empiré. Seuls Henry Thoreau et Herman Melville ont su entrer dans cet espace. Dans un pays où tout se transforme en chaud, le moment le plus significatif à mes yeux a lieu dans ce passage du livre de Thoreau, Cape Cod, où il dit vouloir tourner le dos aux États-Unis et vivre dans une maison atlantique. Ce qui signifie quoi? Beaucoup de choses. Disons d'abord, globalement, une prise de position contre le progressivisme outré des États-Unis, une volonté d'étendre le champ des références, de reprendre les choses à la base et même de tout recommencer. C'est sans doute parce qu'ils ont lu le texte que j'ai écrit et publié sur la maison de Carlyle et sur le rayonnement possible d'une maison comme celle-là que les organisateurs de la réunion pour la création d'une organisation nationale des maisons d'écrivains en France m'ont demandé d'en faire la conférence inaugurale. J'ai donné cette conférence et apparemment j'ai disparu dans la nature. Mais en fait, je n'ai oublié ni l'idée ni le contexte. En France, j'ai habité avec ma femme surtout deux maisons, Gourgournel en Ardèche et Gwenveid en Bretagne. À ce moment-là, l'Ardèche faisait partie de ce qu'on appelait en sociologie le désert français. Ce n'était pas un désert, il avait seulement été déserté par une grande partie de sa population qui avait laissé terre dure à travailler et maison pour aller vers les grandes villes. Elle est simplement redevenue sauvage, splendidement sauvage, avec ses maisons à l'abandon destinées à tomber en ruine. Stéphane Mallarmé, poète pur de Paris, y avait enseigné l'anglais et il s'amusait, avant de penser différemment, à résumer sa vie dans ce pays ainsi, l'art et la dèche. Pour une vraie étymologie du nom, il faudrait plutôt penser au latin ardesco, je brûle, ou encore mieux, ard, celte pour eau. Disons le haut pays brûlant. J'avais fait mes études de lycée dans la ville d'Ardressant, les hauteurs du promontoire. On montait de l'Argentière dans la voiture d'un agent immobilier le long de ce qu'on appelait la route de la montagne. Ce qui dominait le paysage, c'était la chaîne du Tanargue, du celtique tonnerre, le mont du tonnerre. Et puis, à mi-hauteur du flanc de la berge gauche de la Baume, la maison, un édifice austère, mais avec une tour qui surplombait la vallée et une vue sur les hauteurs du Tanargue. Je l'ai nommé Gourgounel. C'est un nom que j'ai trouvé sur un vieux plan cadastral. Ça gargouillait, ça parlait la langue des sources. Le livre du ressourcement. Cela commençait par la citation d'un passage d'un des derniers livres de Nietzsche où il évoque le besoin le plus criant de notre civilisation, l'isolement temporaire, la concentration sur soi-même et le recouvrement de ses propres forces, non pas pour fuir des tentations, mais des obligations. Le besoin de fuir des stimuli qui nous condamnent à dépenser notre énergie en réaction et ne la laissent pas s'accumuler jusqu'à la possibilité d'une action originale, originelle. Une action originelle. Recommencer à la base. J'ai intitulé ce livre « Lettres de Gourgounel » comme pour dire « Il ne s'agit plus ici de littérature selon les recettes habituelles, mais de quelque chose d'inédit. » Le livre fut écrit en grande partie en l'espace de 3 semaines d'inspiration forte, très souvent pendant l'orage, tonnerre, éclair, pluie, venue du Tanargue. Je plongeais dans l'ancienne culture avant sa provincialisation par les Romains, où par exemple les Bogomiles bulgares rôdaient à travers les terres. J'explorais à fond le taoïsme chinois et la poétique du haïku japonais, qui fut pour moi l'entrée dans une poétique de l'ouverture. Je méditais des pièces no, très shinto. C'est d'un lointain rivage que je viens, vers un autre rivage que je vais. Présenté dans la presse britannique comme un phénomène rare de la littérature qui annonce sans doute une œuvre très significative, le livre fut présenté en France carrément comme le début d'une nouvelle littérature. Notons qu'il fut publié dans une nouvelle maison d'édition fondée par Jean-Pierre Le Dantec, natif de l'île Grande, longtemps très actif dans les milieux marxistes et maoïstes de Paris. L'habitation de Gourgounel m'a permis, au cours d'une douzaine d'années, d'explorer surtout le territoire immédiat, de pousser mes investigations géopoétiques jusque dans le delta du Rhône, en Camargue, sur la côte basque et les Pyrénées-Atlantiques. Là, un autre cycle commençait, méditation pyrénéenne d'Atlantica, et le besoin se faisait sentir d'un retour sur un autre rivage du Nord. Ce fut l'autre grande habitation, celle de la côte nord de la Bretagne. Mon approche générale de la Bretagne est celle d'un front pélagique. Ces fronts pélagiques existent partout dans le monde, au sud de l'Australie, entre l'Espagne et le Maroc. Il y en a plusieurs dans nos régions, par exemple l'Accor, entre le golfe de Gascogne et la mer Celtique, et plus proche encore, le front d'Ouessant. Un front pélagique est un lieu où les eaux de différentes régions se mêlent, un lieu de dynamique intense, où la vie est abondante. Je me souviens d'une étude du géologue Karl Sauer sur la post-glaciation, le rivage comme premier lieu de fréquentation de l'être humain. Ce qui rejoint dans mon esprit un vieux texte celte déjà évoqué dans ma première conférence, la conversation des deux savants. Le rivage a toujours été un lieu de prédilection pour les poètes profonds. Pour donner plus de sens encore à mon usage du mot pélagien, je note que Pélagius était le nom que se donnait le premier opposant à la théorie augustinienne du péché originel, devenu dogme de l'Église. Saint Augustin avait envoyé un émissaire, Jérémie, pour convaincre Pélage de son erreur. Devant les arguments et la claire logique de Pélage, celui-ci était réduit à l'insulter, disant qu'il était Scotis pulchritus praegravatus, alourdi de porridge écossais. Le balourd de l'affaire était évidemment Jérémie. Revenons au grand rivage. Sur le plan topographique, le massif armoricain d'aujourd'hui est pratiquement une pénée plaine. Mais elle a connu de grands mouvements géologiques. Témoin, le complexe centré, dont on peut discuter la nomenclature, mais le phénomène du granit liquide en fusion tourbillonnant est là, sur la montagne noire ou sur les monts d'Arrée, la présence archaïque, première et sensible. Une semaine après le début de la recherche d'une maison adéquate, nous l'avons trouvée. Après Gourgounel, un vieil ensemble tout en granit et en schiste sur la baie de Lannion avec deux lieux de travail pour Marie-Claude et moi et un troisième pour le travail que je mène avec des peintres, des graveurs, des photographes avec lesquels j'ai réalisé plus d'une centaine de livres d'artistes. J'ai nommé ce lieu Gwenved, le territoire blanc, en gallois et en breton, Finnmag, en gaélique irlandais et écossais, le lieu de la plus haute concentration. Nous y vivons depuis 40 ans. C'est là que j'ai composé la plus grande partie de mon œuvre. C'est là aussi que fut créé le siège social de l'Institut international de géopoétique, celui qui a désormais essaimé à travers le monde. Il me vient à l'esprit également qu'ici, en Bretagne, nous sommes en plein centre de l'arc atlantique qui, à partir des archipels écossais, les anciennes Hébrides, longe la côte atlantique de la France par Cap Breton et descend jusqu'au sud du Portugal, d'où, comme on sait, on a pu partir vers ce qu'on a appelé trop rapidement le Nouveau Monde. C'est à partir de cette idée de lieu stratégique que j'ai conçu un projet d'envergure que, pour terminer cette conférence, je vais vous soumettre, du moins dans ses grandes lignes. Ce projet concerne mes principales demeures, Gourgounel et Gwenved. Dans un état de désarroi général dont les causes réelles ont été analysées dans ma première conférence, les propositions culturelles abondaient localement, les manœuvres de premier secours se multipliaient, prenant souvent la forme d'un show. Le projet géopoétique est une démarche à la fois plus profonde et plus durable. Considérons d'abord le contexte en France. Avec Gourgounel, il s'agit d'un partage des eaux de la société française, le mouvement d'une culture essentiellement agricole vers une culture industrielle, avec les ruptures et les déséquilibres que cela implique. Aspect qui est mis en évidence par les photographies de Helmut Krakenberger, arrivé en Ardèche à peu près peu après moi, et qui fut inspiré par les lettres de Gourgounel. Quant au texte du livre, il évitait à la fois la solution de droite, retour à la religion, au mythe, à la métaphysique, et la solution de gauche, prenant l'industrialisation à outrance. Avec Gwenved, à un moment où la France commençait à toucher le fond, il s'agissait de créer une œuvre en dehors de toutes les modes, avec la volonté de refonder un monde à travers essais, récits, poèmes. Comme dans La Maison des Marais et avec un humour noir et blanc dans Borderland. Avec cette association de Gourgounel et de Gwenved, j'ai aussi pensé guérir une vieille blessure française, la séparation du Nord et du Sud. Le Nord comme progressiste, le Sud comme province pittoresque. Le Nord comme inculte, le Sud comme héritier de l'ancienne culture classique. C'était pour faire revivre cette idée du Sud qu'Albert Camus et René Char auraient voulu créer un mouvement, avant d'abandonner cette idée perçue par la suite comme une aggravation plutôt qu'une solution. Avec les lettres de Gourgounel écrites dans le Sud et La Maison des Marais écrite dans le Nord, il s'agissait dans mon esprit d'apporter la guérison à cette blessure atavique. Pour considérer le sillage de la France dans le monde, outre les livres et les conférences, évoquons les innombrables cogitations et méditations qui ont donné lieu à des publications assumées avec zèle et passion par Marie-Claude White, Lestran, puis les Cahiers de géopoétique. Concernant le projet concret que j'ai évoqué au cours de cette conférence, ce que j'envisage, en coordination avec l'Institut international de géopoétique, c'est une maison d'écrivains d'un genre élargi, qui donnerait une idée immédiate de la géopoétique à des écrivains et des artistes en résidence, lesquels seraient dotés de bourses de leurs différents pays, à commencer évidemment par la France, ensuite par l'Écosse, puis partout dans le monde où se sont créés des groupes autour de la dynamique géopoétique. Nous verrons. Merci en tout cas de nous avoir écoutés durant ces 2 journées. Voilà, nous voici arrivés au bout de ces 2 journées, à la fois denses, où on a pu être surpris par le réel, on a pu parler technique de façon tout à fait pratique, à se retrouver pris dans la technique de façon plus philosophique, où on a eu l'occasion d'échanger autour des œuvres d'art plastique, d'écouter un concert prenant, immergent, où j'espère vous avez eu des aperçus peut-être inédits sur l'œuvre de Kenneth White, sur la géopoétique. Votre présence continue au cours de ces 2 journées. Kenneth indiquait effectivement que nous avons fait un pari au-delà du le lendemain du 14 juillet, organiser un événement culturel comme vous le sentez ambitieux. C'était un pari. Je pense qu'on peut dire que grâce à vous, il est réussi. Vous avez été là du début jusqu'à la fin. Et au nom de Keynes, en mon nom et au nom de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la préparation, à l'organisation et au bon déroulement de ces 2 journées, je vous salue très chaleureusement. Merci. Le projet que nous pouvons faire déjà ensemble, c'est de concevoir que ces 2 journées ne seront pas uniques, mais qu'elles pourront avoir d'autres éditions ici ou là. Vous avez entendu dans la dernière conférence de Kenesk qu'il conçoit la promotion de la géopolitique et l'articulation de son œuvre dans 2 territoires qui, je le souligne, sont 2 territoires non urbains, ce qui n'est pas si négligeable dans une période où on se retrouve enfermé dans de nombreux espaces qui sont quadrillés. Ce que cherche à faire la géopolitique, c'est nous sortir des espaces quadrillés où on est enfermé, dans des espaces ouverts, non codés. Donc ces 2 espaces sont ceux de l'Ardèche et ceux de la côte nord de Bretagne, donc ici, Trébeurden, 2 lieux où il a intensément vécu et où nous essayons de préparer, alors pour ce qui concerne l'Ardèche Gourgenel, il a évoqué un photographe, Helmut Krakenberger, un photographe allemand qui s'est installé à Valgorge, où se situe la maison de Gourgenel, à peu près en même temps que Kenneth White, et qui a fondé une association, l'association Gourgenel, qui sera, d'une façon qui reste encore un peu à déterminer, mais qui sera une association en lien étroit avec l'Institut, où en 2019, donc juste avant le phénomène viral mondial qui nous a frappés, nous avions eu l'occasion d'organiser le lancement symbolique, non, c'était une maison de la façon dont, maison que j'ai évoquée dans ma conférence tout à l'heure, non pas une maison bâtie, mais de lancer une maison géopolitique Kenneth White, donc en 2019, il y a eu, dans une petite localité, Valgorge est beaucoup plus petit que Trébeurden, il y avait 200 personnes qui étaient venues, des officiels, etc. Donc tout ça était parti d'un bel élan. Et ensuite, il y a eu cette interruption. Ça a mis un peu les sociétés à l'arrêt. Il y a eu des changements de majorité municipale. Voilà, je vous passe les détails. Mais nous sommes en train d'essayer de relancer ça. Donc il y a d'une part ce qui se passe en Ardèche. Et ce que nous essayons, c'est ce dont parle Keynes dans sa dernière conférence, transformer la maison de Gwenc'hwed en une maison d'écrivain.